On nous avait, le lendemain, on a mis les parachutes. Et alors, on rentrait dans l'avion et c'était jamais les mêmes. Alors, le premier jour, j'étais le premier à rentrer dans l'avion. Donc, j'étais le dernier à sauter. Et le dernier à sauter, c'était très mauvais parce que l'avion, c'était des vieux coucous qui faisaient le tour de l'aéroport, de l'aérodrome. Et chaque fois qu'il revenait, il y en a un qui sautait. Et on repartait. Oui, mais alors moi, j'étais 10 fois.
10 fois le tour.
Et 10 fois, j'étais comme ça.
Oui, on peut imaginer.
Et j'ai lu, j'ai récité quelques vers de Verlaine, que je dois me souvenir, parce que j'avais le cœur battant. Alors la première fois, ça s'est très bien passé. La deuxième fois, il y avait un peu de vent. Et la troisième fois, il y avait mon parachute était coupé en deux parce que il y avait les, je ne sais pas comment ça s'était fait, qui s'étaient enroulés. Donc, je descendais très vite, mais chaque jour, on était largué de plus bas. C'est-à-dire, le premier jour, on était à 1000 mètres, et puis 800, et puis 500, tout ça, parce que, en réalité, on était parachuté à 200 mètres. Parce que il fallait tomber, il fallait tomber là où nos camarades nous attendaient. Et 200 mètres, il y a un peu de vent, une chose comme ça.
Et pas être visible, parce que si on part de très haut, on est visible.
Alors, mais on commence toujours par, parce que, ah oui, le premier jour, c'était merveilleux, parce que vous planez, vous voyez ce pays-là. C'est drôle, parce qu'on sort de ces moteurs où il y a un très grand bruit. Des avions où il n'y a pas de siège, il n'y a rien de tout, et il y a beaucoup de bruit, et tout d'un coup, le parachute s'ouvre tout seul après vous, et au fond, il y a un silence et tout à fait extraordinaire. Le silence, on balance, on voit le paysage. Je vous conseille de vous faire parachuter.
Ça m'est jamais arrivé, Daniel, mais bon, je pense qu'on pourrait le faire, oui. Après, voilà. vous avez sauté après en parachute, non? Vous avez, après la guerre, non? Ça vous a jamais retenté?
Alors,
terminé. Ça vous a vacciné, hein?
Demandez-moi d'autres choses.
Alors donc, vous faites du coup parachuter, hein, José l'a évoqué, donc on coupe un peu, parce que sinon on va y passer la nuit, mais bon, mais...
On a dit
l'essentiel, on a compris qu'à Londres vous étiez dans cette attente, hein, cette attente d'agir, vous avez eu cette possibilité désormais de rentrer au BCRA, hein. Et donc finalement, cette initiation au parachute, au parachutage...
Oui, mais je ne savais pas ce que j'allais faire.
Ah oui.
Je savais, parmi les tout ce que j'avais acheté, tout ce que j'avais appris pendant un an, j'avais tout appris, à conduire les locomotives, en fait, tout appris, enfin, on apprenait tout, et y compris le morse, parce qu'on était opérateur, tout ça. Mais, bon.
Mais quand vous partez pour être parachuté, vous savez où vous allez, vous savez quelle est votre mission, vous avez une feuille de route, vous avez quelque chose qui vous...
Oui, je savais. Je devais être le radio et le secrétaire de Georges Bidault. Mais ça, on me l'a dit...
Peu de temps avant.
Ah oui. Non, on l'a dit. Parce qu'au tarmac, on vous donnait tous vos papiers, tout le show, des cartes en soie de la France. Et en plus, alors, on vous donnait une pilule. Ça, c'était très important.
Du dopage. Dopante, une pilule.
Alors... C'était une pilule enveloppée de caoutchouc et on vous expliquait qu'il fallait la mettre là.
Ah oui, d'accord.
On mordait et instantanément on mourait. Oui, c'était... Non, parce que vous savez, j'ai des camarades malheureusement qui ont été massacrés, tout ça, mais on portait notre pilule partout.
D'accord.
Voilà. Et puis... Alors, qu'est-ce que vous...
Eh bien, alors, donc, vous partez pour l'aérodrome, vous partez, vous êtes donc parachuté. Nous sommes en 1942, hein, désormais, le 26 juillet. Ouais.
Je vous signale que malheureusement, nous avons fait 2 fois le voyage, parce que le premier soir, Il n'y avait personne. L'avion a tourné, tourné. Donc et il n'y avait personne. Mais l'équipe qui devait nous recevoir, peut-être ils n'avaient pas reçu les... Ils n'avaient peut-être pas
les informations. Les informations. Et donc... Informations.
Et alors, nous avons été parachutés.
Alors, vous avez été parachuté à Montluçon.
Nous étions trois. Nous étions trois. J'étais avec un de mes camarades qui avait été... qui avait fait la radio avec moi, mais c'était le Père Blanc, le fameux Père Blanc, par qui j'étais rentré, mais il avait une autre mission, on va dire, et il était avec un organisateur qui avait, il avait d'autres missions, je ne savais pas lesquelles, etc. Mais alors nous avons été parachutés tous les trois. Le lendemain, nous avons été, nous sommes restés, c'était des gens de la SNCF qui nous gardaient. C'était une très jolie maison dans Montluçon.
Montluçon.
Et nous avons été parachutés le jour où... Comment s'appelle-t-il ? Le maire de Montluçon qui a été assassiné. C'était ce jour-là, oui, mais au début de la guerre. C'était. Et donc... ce jour-là, on nous avait interdit d'ouvrir les volets, de toutes choses comme ça, parce que toute la journée, devant nous, il y avait les gens qui allaient au cimetière pour déposer des fleurs, des choses comme ça. Voilà.
Alors, comment vous rejoignez ensuite Lyon ? Comment est-ce qu'ensuite vous allez...
Lyon, c'est le lendemain.
Vous ne connaissez pas Lyon ? C'est une ville qui vous est totalement inconnue.
Non, on nous envoyait dans des villes que l'on ne connaissait pas.
C'était fait exprès.
De manière à ce qu'on ne rencontre pas des gens qui nous connaissent.
C'est ça, oui.
C'est ça. Donc ma région, c'était Bordeaux et Pau.
Donc impossible d'aller à Bordeaux et Pau, de revenir dans votre région.
C'est comme ça que j'ai découvert Lyon. Et nous sommes allés à Lyon. On nous a mis chez... Et quelqu'un, parce qu'au fond, on avait peur de nos réactions dans la rue. C'est très curieux. On nous a mis chez une dame, tous les deux. On était l'autre radio. Et interdiction de sortir, interdiction d'ouvrir les volets. Mmh. Et la dame avait tellement peur que nous sommes restés deux jours. Et que nous sommes allés chez d'autres gens, des Parisiens. Et alors là, il y a mon ami Schmitt, qui avait fait l'opération, qui avait dirigé l'opération, et qui était l'officier qui faisait la liaison avec Libération pour les parachuteurs d'armes. Et l'apprentissage de ces armes, et ainsi de suite. Et alors, Schmitt est venu me prendre, et il m'a dit, avant de te présenter à Bidault, je vais te présenter au patron, à Rex. Parce que Jean Moulin,
Rex, c'était
son nom de guerre.
Son nom de guerre.
Alors
comment vous êtes présenté, comment vous rencontrez Rex ?
Alors, il est venu me prendre à 2h de l'après-midi, place la grande place...
Place Bellecour à Lyon, c'est ça ? Parce que là, c'est un moment important de votre vie, cette journée-là
oui.
aussi. Hein.
C'était voilà. Tout la queue, le rendez-vous.
Oui.
Je dis la queue du cheval. Et finalement, il est venu me prendre et nous sommes partis. Il faisait une chaleur terrible.
Oui, en été.
On sentait très mauvais parce que il y avait pas d'égout à ce moment-là. Oui. Alors nous sommes montés derrière la place des terreaux et nous avons pris des traboules. Il m'a montré ce que c'était
les traboules.
Tu sais, ça c'est formidable pour nous parce que ça permet
des passages.
Je voyais pas très bien, mais enfin je veux dire. Mais j'étais quand même relativement un peu inquiet. Et puis, on rentre dans une maison, et au deuxième étage, on sonne et tout. Il faisait très chaud, tous les volets étaient fermés dans les rues, tout ça. Et il n'y avait personne dans les rues de Lyon en ce moment. Et finalement, on entre, la dame ouvre la porte du salon. C'était un très grand salon du 18e siècle, très joli. Et il y avait au fond du salon un homme qui était dans un fauteuil avec une chaise devant lui. Et sur cette chaise, il y avait une pile de documents. Et il était en train de lire des documents. Et quand nous sommes rentrés, il nous a regardés. Il s'est levé et il est venu vers nous. Et Schmitt, mon copain, lui a dit, je vous présente mon nom de code, bien entendu.
Alain.
Oui, mais non.
Après.
C'était le nom de code. Ah, c'est bon. On a utilisé le nom de code. Et puis, je ne savais pas très bien comment me tenir vis-à-vis de Moulin parce qu'il était en civil. Alors, est-ce que c'était un officier ?
Vous ne saviez rien de lui ?
Rien. Je ne savais pas son nom, je ne savais pas qui était Rex. Et je me disais, peut-être c'était. C'est quelque chose pendant tout le temps où j'ai travaillé avec lui. Il y a des jours où je me disais, ça doit être un diplomate, un ambassadeur, parce qu'il est élégant, il a beaucoup de contacts, il sait sourire, il a beaucoup de gentillesse et tout ça. Et puis d'autres fois, je me disais non, c'était un général, c'était un officier parce que au travail, il est vraiment
dur.
Très dur, il faut que tout marche et tout ça. Et alors je cherchais, et même un jour, quelques temps après, où il me parlait beaucoup de peinture. Il m'avait prévenu, il m'avait dit, mais vous savez, dans ma couverture, je suis peintre. Et quand je sens que nous sommes au restaurant, dans la rue, en danger, etc., et brusquement, je vous parlerai de Cézanne, j'avais aucune idée de qui était Cézanne, de Renoir, de ces peintres-là. Bon, Moulin me dit, si vous êtes libre à dîner, je venais pour...
Il vous invite à dîner.
Alors, je venais, si vous êtes libre à dîner, rendez-vous ce soir à une rue, il m'a donné le nom et le nom du restaurant. Vous n'avez qu'à acheter un plan et vous trouverez. Et puis il m'a tourné le dos.
Il
est parti travailler
à
avec
ses occupations,
Schmitt,
oui.
Qui avait des dossiers, etc.
Oui.
Et alors je suis reparti. Et là, quand je me suis retrouvé dans la rue,
l'intensité du rendez-vous
non,
à venir.
Non, pas du tout. J'avais très peur parce que j'étais tout seul.
Oui.
Je m'étais rendu compte dans le train que je n'étais pas du tout habillé comme les Français. Parce que, à Londres, on nous laissait habiller comme nous voulions. Mais j'étais habillé comme j'étais habillé quand je suis arrivé à Londres. J'avais une veste de sport, un peu comme aujourd'hui. J'avais un pantalon gris. C'était comme je suis un peu aujourd'hui. C'est comme ça que j'étais habillé avec ma famille. Mais tous ces matériaux étaient beaucoup plus beaux qu'au sud, meilleurs. Non, parce que nous étions en 42.
Oui, 42.
En 42. Et donc, en 42, les gens étaient plus ou moins bien habillés. Mais là, l'arrivée de Londres. Et surtout, il y a une chose que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup, ce sont les chaussures. Et j'avais trouvé dans une rue à Londres des chaussures que l'on faisait sur mesure qui étaient rouges. Et ça m'avait beaucoup plu.
Surtout.
Et c'était des chaussures de sport.
Ah oui.
Oui, vous savez, des chaussures avec un chaud, mais elles étaient rouges. Je ne sais pas. Et ça m'avait beaucoup plu. Et alors, je les avais prises immédiatement. Et à Lyon.
À Lyon, des chaussures rouges.
Mais écoutez, ce qui est étonnant quand même, c'est que je suis resté presque 2 ans en France à Lyon, à Paris, dans le tram, partout. Jamais des chaussures n'ont été regardées par les gens qui nous arrêtaient.
Et vous en portez bonheur ?
Non, parce que je pense, et autre chose, je pense que je devais être pris pour un de tes fils de riche, enfin, du marché noir. Ouais. Je pense, je n'en sais rien. Parce que, écoutez, j'ai encore ces paires de chaussures.
Ah oui,
ça c'est vrai. J'en ai même acheté une autre en rentrant, parce que je voulais en avoir deux, parce que je ne les ai jamais mises. Mais c'était quand même... Alors, donc...
Donc vous êtes dans les rues de Lyon, cet après-midi-là, en attente du rendez-vous le soir avec Jean Moulin.
Oui, ben ça, j'ai très peur. Et alors, bon, j'achète un plan, je vais voir où se trouve ce petit restaurant, à côté de l'Opéra. Mais j'avais qu'une idée, c'est de retrouver mon copain. Parce qu'on s'était donné rendez-vous à 4 heures. Je lui ai dit, je ne sais pas quand je serai libre, mais à 4 heures, on se retrouve. Et finalement, j'ai dit, mais peut-être qu'il est déjà là. On avait rendez-vous dans le café où je l'avais laissé pour aller. Mais il était là.
Ah.
Parce qu'il a dit, mais quand tu es parti, j'avais très peur et je ne savais pas quoi faire et je n'osais pas bouger. Le père blanc.
Oui.
Et bon, alors je lui ai dit, écoute, il n'y a qu'une manière de ne plus avoir peur, c'est d'aller au cinéma tous les deux. Parce que oui, parce qu'il était 3h30, 4h.
Oui.
Et ben oui, mais j'avais rendez-vous à 7h.
Il fallait tuer le temps.
Ah oui,
il fallait...
j'avais envie. Et alors, on a regardé, il y avait un cinéma qui n'était pas loin. Où on jouait Ramoncho. Oui. Eh oui, mais c'est mon pays, ça.
Voilà. Donc vous êtes allé passer du temps et voir ce film.
J'ai dîné avec Moulin, je suis arrivé en avant, et c'était un tout petit bistrot, et quand il est arrivé, il a commencé par me faire changer. Et moi, je m'étais assis sur la banquette parce que j'avais pris le premier siège quand on ouvrait la porte. Premier siège, j'ai dit comme ça.
Vous ne voulez pas être de dos face à l'entrée.
On peut sortir, on peut s'évader. Enfin, vous savez, c'est pas... et donc, il me mettait sur la chaise et lui, il s'est assis sur la banquette parce que lui voulait voir qui rentrait.
Qu'est-ce qui se passait, bien sûr.
Et alors, la première phrase, après, je vous parlerai de ce que nous faisions. Mais la première fois, alors, le menu, il a dit, ben, je prends pour vous, tout ça, on a pris, il y avait du poisson, enfin c'est lui qui a choisi tout ça. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous buvez ? J'étais un buveur d'eau. Et je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, je voudrais du Perrier. Ah, il m'a dit, du Perrier ? Jamais.
C'est pas bon pour la santé.
Non, c'est très bon.
Ah, c'est très bon.
C'est très mauvais.
Ah, très mauvais. Oui.
Non, le Perrier, c'est très mauvais dans un repas. Parce que
ça ballonne.
Voilà. Les premiers mots.
Les premiers mots ont été évoqués
sur
le Perrier.
Bon, on a commandé tout ça. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faisiez à Londres ? Je lui ai dit, comment ? Il y avait le général de Gaulle. Mais il m'a dit, mais c'était Pétain qui était le chef du gouvernement. Pourquoi vous êtes parti ? Ah, alors là, j'ai recommencé à lui dire ce que je vous ai raconté. Oui.
Vous l'y avez plus, sûrement, non ? Vous l'avez intéressé, vous l'y avez plus. Votre discours a dû le séduire.
Et non, mais lui, écoutez.
Nous aussi, hein.
Mais, voilà. Alors, il était intéressé. Il a dit, mais... Mais la guerre était finie. C'était cette idée. Je lui ai dit, mais non, la guerre n'était pas finie, Pétain était un traître. J'ai parlé de ça. Donc, après, il posait des questions. Et demandé, mais qu'est-ce que vous faisiez avant la guerre, tout ça. Je lui ai dit, ben, j'étais au collège, j'étais pensionnaire. Et puis alors, comme je voyais que ça l'intéressait, je me suis dit, mais au fond...
C'est vous qui avez parlé, alors?
Ah, c'est moi qui ai parlé, oui. Mais oui, ben, lui, il voulait savoir qui j'étais.
Mais oui.
Et donc, mais, ce qui est curieux, c'est que normalement, je ne devais pas dîner avec lui, puisque je venais pour voir Bidot. Que Bidot m'invite à dîner, oui, j'étais son secrétaire, mais que Moulin m'invite, mais ça, c'est ça la jeunesse. C'est que on se pose des questions, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Vous voyez, je disais, au fond, bon, ben, c'est, on va dîner ensemble.
Oui.
Et alors, quand il m'a demandé, quand il m'a dit, mais oui, je voudrais connaître un peu. Et je me suis dit, au fond, il doit être Action française.
Parce que vous lui avez parlé de vos engagements, par exemple. Ah ben, oui.
Je n'avais que ça.
Vous n'aviez que ça. Vous étiez toujours dans cette mouvance.
Il y avait ça. Oui. Et puis mon départ pour Londres, et puis mais l'armée, ça ne l'intéressait pas. Enfin, il savait d'où je venais. Mais avant, il me demandait avant. Mais avant, j'étais collégien. Mais surtout, j'étais Action française. Et alors là, comme je voyais qu'il était très intéressé, je lui ai décrit comment on organisait les ventes, combien on vendait, et la vente triomphale à Pau les derniers 15 jours, où ça, non, parce que je vous signale que j'avais redemandé 350
exemplaires de l'Action française.
Oui, pour vendre le dimanche.
Du journal.
Le dimanche.
Oui.
Eh bien, le dimanche, 18 juin.
18 juin, eh oui, oui. Oui.
Enfin, 17 juin.
17,
oui. 17 juin. Et donc, voilà, et ça paraissait... Alors, il avait commencé à manger, et il paraissait très intéressé. Je me dis, ben, ah, il n'y a pas de doute, c'est un Action française.
Il est dans notre mouvance.
Voilà. Oui. Et puis alors, bon, on a parlé toute la soirée, et alors, ce qui est très curieux, c'est que quand j'ai eu fini, il m'a répondu. Et c'était très curieux. Et il m'a dit, mais écoutez, j'étais très intéressé par tout ce que vous me dites, mais au fond, je suis encore plus fier de mon père, qui était, quand il était de gauche,
C'est un Biterrois professeur.
Oui, professeur, mais comment ça s'appelle? Radical.
Radical, oui.
Radical,
oui. Qui était élu même, hein, je crois.
Oui, ah oui, son père était. Il a dit, ben, j'ai échappé, ben non. Et alors, il m'a parlé de son père, il m'a parlé. Et alors, il avait beaucoup d'admiration pour son père, beaucoup.
Qui était décédé à ce moment-là.
Mais vous savez, après, bon, longtemps après, j'ai lu la vie. Enfin, j'ai essayé de comprendre qui était son père. C'était un homme qui venait de la campagne, c'était un fils de paysan, qui avait fait des études et qui était devenu professeur. Il était professeur.
Professeur d'histoire.
Et donc je comprends que cet homme. Mais je n'arrivais pas à comprendre, enfin à voir de quel milieu il était. Parce qu'il était très élégant.
Oui.
Il était bronzé. Et il était très élégant.
On sait que Jean Moulin était sportif.
Hein. Il était depuis 26 ans, il était, depuis 30 ans, il était dans la préfectorale.
Oui.
Il avait fait tous les postes de la préfectorale. Oui. Et depuis, je crois qu'il avait été préfet pendant... Pendant 6 ans, je crois.
6 ans, sous-préfet d'abord, puis préfet ensuite.
Oui, non, non, mais tout.
Et puis il faisait beaucoup de ski, de bateau.
Il avait tout fait.
Oui.
Et je ne sais pas, il avait beaucoup d'élégance, beaucoup de chic. C'est-à-dire qu'il était très beau et c'était un grand amateur de femmes. Je ne trahis pas sa mémoire en disant ça parce que...
Donc il s'est passé quelque chose ce soir-là entre vous, quelque chose qui s'est noué, une confiance. Non, de l'admiration.
Non, ce qui était noué, c'est qu'il me tardait qu'il me lâche parce que je voulais voir Bidot. Je veux dire. Non, non, mais c'est, vous oubliez ma mission.
Oui, et vous étiez un peu détourné de votre mission à ce moment-là.
Mais attendez, pas encore. Alors, vers 11h, il me dit, ben, raccompagnez-moi. On sort, on longe le Rhône. Et puis on marche, et puis on va vers la gare. Enfin, je repérais un peu qu'on marchait vers la gare. Et puis on a pris une rue, et presque à la fin de la rue, il m'a dit, écoutez, c'était le 83 ou je ne sais pas quoi, de cette rue, c'était une rue qui était parallèle au fleuve. Et il a dit, regardez bien le numéro, c'est là où j'habite. Vous viendrez demain matin à 7h, bonsoir, et il est rentré, et il a claqué la porte, et il était hébété. Parce que, tout d'un coup, mais je n'avais plus de mission pour Londres, j'étais un traître, mais je n'avais plus...
Oui, la confusion,
alors,
la confusion.
Je suis rentré à pied, ouais. Parce qu'il n'y avait plus d'autobus, ah oui. Hein, c'est pas...
Vous allez rejoindre vos...
le long du Rhône, parce que j'habitais à l'autre bout de la ville, en face du parc qui était à l'autre bout de la ville. Voilà.
Et vous avez rejoint donc votre...
Le lendemain matin, j'étais chez lui à 7h.
7h. Donc avec une mission désormais qui se profile à l'horizon.
Non, mais alors... il m'a fait asseoir. Et alors, j'étais très gêné, parce que... C'était une chambre qu'il louait, une petite chambre, mais avec un très bel édredon, enfin, un lit ancien, etc. Il y avait deux fenêtres avec de jolis rideaux. Et puis, il y avait une petite table entre les deux fenêtres et une chaise. Et il y avait un fauteuil. Et il m'a fait asseoir dans le fauteuil et il s'est assis sur la chaise.
Que des gars.
Et alors, il tourne sa chaise vers moi. Et il me dit, mais alors comment vous avez dormi? Mais très gentil. Et mais comment vous avez dormi? Je lui dis, ben écoutez, pas très bien. Ah bon? Mais pourquoi? Mais parce que vous m'avez dit que j'allais travailler avec vous, mais je suis envoyé pour Georges Bidault. Oh, dit, ne vous inquiétez pas, j'enverrai un télégramme à Londres. Et nous, maintenant, nous allons travailler. Ça a été fini.
La mission s'était éclaircie. Voilà. Alors, donc, il vous propose de devenir son secrétaire. Et c'est une mission qu'il...
Je ne savais pas, je n'ai jamais été secrétaire. J'ai tout appris, d'accord. Sauf être un secrétaire.
Vous aviez appris le parachutisme, mais le secrétariat de Jean Moulin...
Ah oui. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses dans l'armée.
D'accord. Alors, racontez-nous cette fonction qui dure un peu moins d'une année, qui va être ce travail que vous faites à ses côtés, c'est-à-dire une gestion de son courrier, une gestion des télégrammes, une gestion des lettres.
Non, mais d'abord, mais il n'y a personne. Il faut que je trouve une secrétaire, il faut que je trouve courrier, ce que l'on appelait des courriers dans la résistance, c'est-à-dire des garçons. En général, c'était des jeunes, des gens qui avaient 17 ans, 18 ans, 19 ans, un truc comme ça. C'est-à-dire,
avant vous, Jean Moulin était seul. C'est vous qui allez organiser une sorte d'équipe autour de lui.
Moulin était le patron. Et c'est ce qu'il m'a dit, mais écoutez, depuis 6 mois que je suis là, je n'ai personne. Et il écrivait, d'ailleurs j'ai retrouvé, quand j'ai écrit mon travail sur Moulin, j'ai retrouvé deux de ses rapports à Londres, et qui sont entièrement manuscrits, et qui sont codés, qui sont... ce type qui était le chef de la résistance, mais c'était fou.
Oui.
Et donc ça, c'est tout ça que je devais faire.
Donc vous devez gérer cet ensemble
Oui, enfin, être un secrétaire. Bon, alors, il n'y avait pas le téléphone, pas de télégramme, etc. Mais tout le reste, c'était du secrétariat. Mais c'était beaucoup plus compliqué, parce que pour prévenir... Si vous voulez, mon travail s'est passé au niveau supérieur de la résistance, c'est-à-dire au milieu de tous les chefs, et les adjoints, etc., de la résistance. C'est-à-dire, il va y avoir en tout, dans les deux zones, il y avait 80 personnes, c'était très peu de monde. Et donc, voilà. Et donc, en zone libre, vous aviez trois mouvements, c'est ce qu'il m'a expliqué. Ouais.
Il a fallu déjà comprendre comment ça fonctionnait, c'était évident.
Oui, ah ben quand même, il m'a... il m'a dit, je vais vous expliquer un peu. Alors, ben, vous savez, je ne comprenais pas très bien, mais enfin, j'écoutais. Et alors, à la fin, je me souviens très bien, je lui ai dit, mais oui, mais il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise, c'est que je n'ai rien pour faire du secrétariat. Je n'ai pas de machine à écrire, je n'ai pas de secrétaire, tout ça. Je vais le dire au mouvement, retenez ça. Ils vous donneront tout ce dont vous avez besoin. Et j'avance sur tout ce que l'on va dire. Et effectivement, il a demandé aux trois mouvements de me fournir des locaux, du secrétariat, du matériel, des chambres, etc., etc. Et en deux ans, jamais je n'ai eu la moindre chose de tous les mouvements, ni en zone sud, ni en zone nord. Voilà. Et il a fallu que je trouve tout moi-même.
D'accord.
Et c'est ça qui m'effrayait. Mais ce qui était intéressant avec Moulin, c'est que il y avait deux personnages. Il y avait le personnage qui était le représentant du général de Gaulle et qui, tous les matins, quand j'arrivais à 7h, consultait tout le courrier que j'apportais et répondait à tout. Alors, il y a des choses où il faisait des brouillons pour que la secrétaire que je devais trouver lui tape. Et puis, il y avait les choses qu'il me disait, vous répondrez à celui-ci, à celui-là, etc. Bon, je notais, et ainsi de suite. Mais tout était chaud. Ça, c'était la première chose.
Tous les matins, vous le voyez
Tous les matins, à 7h, je vais rendez-vous avec lui.
Tous les matins.
Tous les matins. Et puis, le soir, nous dînions ensemble. En dehors des moments de la journée où je devais le rencontrer. Parce que c'était un homme qui avait 43 ans. Oui, mais j'étais un enfant.
Oui.
Mais ça a une grande différence dans la résistance. C'est que les hommes dans la résistance étaient très prudents. Que ça soit Bidault, que ça soit Dacier, que ça soit Freinet, que ça soit qui vous voulez, tous les résistants, les chefs de la résistance que j'ai connus, étaient très prudents. Les jeunes. C'était tout ce que l'on trouvait, c'était 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, bon, etc. Bon, alors, il n'avait pas de grande responsabilité, mais c'était ce que l'on appelait les courriers. Je n'avais personne. À la fin, nous étions très peu, mais quand même, j'avais une douzaine de courriers.
Une
douzaine pour la ville de Lyon, seulement pour la ville de Lyon. Et puis je n'avais qu'une secrétaire, parce que je n'avais trouvé qu'une secrétaire, c'était une Alsacienne, Mado, c'était un des compagnons de la Libération, c'était une des six femmes compagnons de la Libération. Et voilà, je veux dire, c'était très, 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 très peu de monde, mais c'est... Pardonnez-moi, mais pour vous expliquer comment j'ai trouvé, pendant 8 jours, je ne trouvais personne, étant donné que j'attendais que les mouvements à qui il a dit que je cherchais du personnel et tout, qu'il fallait me fournir du personnel, bon, il n'y a rien eu. Donc il a fallu que je trouve. Et par exemple, la personne qui m'avait accepté pour dormir, qui travaillait, elle, pour Vichy, dans un autre service, et bien m'a dit un jour, bon, je lui ai dit, mais écoutez, il y a quelque chose de terrible, c'est que je cherche une secrétaire et je ne connais personne. Que c'est pas. Elle m'a dit, mais peut-être que j'ai quelqu'un pour vous. Et j'ai dîné avec quelqu'un qui était une Alsacienne, qui s'était enfuie d'Alsace après l'occupation et qui travaillait à Lyon. Et qui travaillait dans son service, parce qu'elle avait ramassé tous les gens comme eux, des gens qui étaient partis, qui avaient quitté leur truc et tout ça. Et elle m'a dit, ben, je vais vous la présenter, qui s'appelait Mado. Mmh. Et effectivement, Mado, le lendemain, on a déjeuné ensemble. C'était une fille extraordinaire, qui travaillait dans les temps. Et ben, voilà, et j'ai trouvé Mado. Et puis après, j'ai trouvé... une autre personne qui m'a dit, mais je connais peut-être un garçon qui pourrait servir de courrier. C'était un ouvrier. Et c'était un ouvrier qui s'était écrasé le pouce pour ne pas partir en Allemagne. Oui. Parce qu'il avait 20 ans.
Au STO, au service. Donc vous avez monté toute une équipe, en fait, autour de Jean Moulin.
Oui, mais je faisais ce que tout le monde faisait. Vous savez, c'est pas moi, mais. Oui. Tout le monde se trouvait devant ces problèmes. Mais c'était très peu de monde. C'était très peu de monde parce qu'il y a quelque chose qu'il faut répéter. C'est que la résistance, c'était très peu de monde.
Oui.
C'est que...
En 1942-43.
En 1942. Mmh. 42. Parce que... Non, mais il y a des choses extrêmement précises. Quand je suis arrivé, tout le monde me disait, je vais vous donner des garçons, des filles, des secrétaires, des trucs, vous allez avoir une chambre, un truc et tout ça. Mais au bout de 15 jours, tous les représentants de la résistance m'ont dit la même chose. On dit, mais écoutez, on a cherché, on s'est renseigné, mais pour l'instant, on n'a personne. Je suis resté deux ans, oui. Je n'ai jamais eu personne venant de la résistance.
Bon, ça, c'est une donnée très importante que vous
nous... Mais c'est très important, bien entendu. Et dans l'été 1942, j'avais beaucoup... Moulin ne venait pas tous les jours à Lyon. Il venait... 3 jours, 4 jours par semaine, et puis il partait parce qu'il n'avait rien à faire. Mmh. Et ainsi de suite. Là où tout a changé, pour que vous compreniez quelque chose, c'est que là où tout a changé, c'est le débarquement en Afrique du Nord, au mois de novembre. Oui,
novembre 42.
Et voilà. Alors là, effectivement, il y a eu ce changement. C'est en novembre, parce que les gens ont eu... Mais De Gaulle, qui était l'organisateur de toute la résistance, n'était pas à Alger. Et les Américains ne voulaient pas de De Gaulle à Alger. Donc c'était Giraud. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Nous ne savions pas. Oui. Enfin, je dois dire que pour moi, c'était un choc terrible.
Oui, vous étiez dans la certitude.
Voir que De Gaulle n'était pas parti à aller. Pourquoi? Alors après, il est allé... Mais tout ça, c'est très lent.
Oui,
c'est en janvier 1943, il va au Maroc pour rencontrer Giraud. Il se serre la main. Et De Gaulle repart à Londres. Et Giraud repart à Alger.
Oui.
Mais celui qui dirigeait Alger, celui qui avait une armée française, ce n'était pas De Gaulle, il avait quelques territoires, il avait une armée de Noirs. Il y a un chiffre qui vous intéressera peut-être, c'est que quand les forces françaises libres ont été dissoutes, quand De Gaulle est parti à Alger en juillet 1943, et les forces françaises libres ont été dissoutes. Et à ce moment-là, vous avez 50 000 anciens Français libres. Mais sur ces 50 000, vous en avez, je crois, des 23, 24 000 qui sont des Français, des Européens, des Blancs. Mm-hmm. Le reste, ce sont des Noirs.
C'est des troupes coloniales, oui.
Oui, non. C'est-à-dire que Giraud avait 200 000 hommes, 100 000 hommes, je ne sais pas combien exactement, mais enfin, il avait une armée, et de Gaulle n'avait toujours que très très peu de choses. Alors, il avait des troupes qu'il envoyait partout, il avait en Russie, il avait une escadrille de pilotes, etc. pour...
Oui, ce que vous nous dites là, c'est que rien n'était écrit d'avance et que les choses se sont faites toujours dans la difficulté, dans l'incertitude, dans un mouvement qui n'était jamais acquis.
Mais je vais vous dire, justement, c'est un peu le défaut de l'histoire. C'est que quand on raconte...
On sait ce qui s'est passé aujourd'hui.
Après ce qui s'est passé, c'est très facile de raconter et ça va très bien. Mais justement, je suis assez content qu'on ait pénétré dans ce passé...
Mais là, vous nous faites comprendre la complexité.
Lentement, oui. Parce que ce que j'ai fait, c'est de vous faire participer aux complexités et aux vraies difficultés que nous avons rencontrées à tous les échelons. Moi, j'étais rien du tout. J'étais un tout petit...
Mais alors, le 27 mai 1943, la fondation du Conseil national de la Résistance. Vous avez accompagné cette mise en place.
Alors, oui. Mais alors, il faut...
Et non sans difficulté.
Non
sans problème.
Non sans difficulté. Non, parce que Jean Moulin voulait à tout prix rencontrer De Gaulle parce qu'il y avait un an qu'il n'avait pas vu De Gaulle. Donc, il a eu une première opération au mois de janvier. L'avion n'est pas venu, etc. Et puis finalement, le 12 février, il est reparti à Londres. Et si vous permettez, avant de partir, parce qu'il comptait prendre quelqu'un qui puisse le représenter auprès des mouvements de résistance. Et finalement, il a trouvé personne.
C'est pas facile.
Et alors, je lui dis, mais qui va commander quand vous serez parti? Il me dit, mais il n'y a pas besoin de commander. C'est vous qui avez l'argent. C'est vous qui êtes le patron. Moi, ne vous inquiétez pas, tout le monde a besoin de vous. Oui. Donc, prenez conscience de ça et je vous dirai, je vous enverrai des télégrammes et je vous dirai à qui il faut donner l'argent, etc. Évidemment, non, mais j'étais paniqué. Enfin, écoutez,
c'était des sommes importantes.
C'était 1 million, c'était 2 millions, c'était à l'époque.
Énorme.
C'était des sommes considérables.
Considérables.
Je pensais qu'une grande propriété dans mon pays, de Bordeaux, de 50 hectares, ça valait à l'époque 200 000. À l'époque, 200 000. Bon, mais moi, je donnais des millions, je distribuais des millions, quelquefois.
C'était,
20 000 francs,
c'était l'une de vos fonctions que de répartir les sommes d'argent.
Je distribuais ce qu'on me demandait, ce que Moulin me disait de distribuer. Oui. Mais en plus, j'avais la responsabilité. Je recevais 5, 6, 8 millions par mois. Ça, au début, c'était beaucoup moins. Puis ça a progressé à la fin. Quand je n'étais plus là, je crois que les derniers mois, on a donné... on a distribué 100 millions, enfin, c'était des sommes considérables, parce que c'était des billets français qui arrivaient.
Qui arrivaient, qui transitaient par vous et que vous redistribuiez, voilà, donc il y a tout
ça. On nous donnait aussi, il y avait des livres, parce que quand ils n'avaient plus de billets français, ils ajoutaient le reste, ils avaient 30 000 livres, 40 000 livres, et nous, il fallait trouver des gens qui puissent le changer et à un prix qui n'était pas trop bas, et ainsi de suite. C'était tout ça. Et alors...
Donc, le Conseil national de la résistance apparaît, né en mai 1943, et là, il y a... Bon, on ne va pas rentrer dans les détails.
Non, mais attendez. Oui. Moulin va à Londres, et Moulin dit au général de Gaulle... C'est Moulin qui a eu l'idée, du conseil de la résistance. Oui. Et la première idée, la première fois qu'il en parle au général de Gaulle, c'est dans son rapport du 14 décembre 1942. Mmh. Et il dit, mais l'organisation de la résistance est telle que je pense qu'il faut... C'est pas très long, c'est une demi-page. Mais il commence à proposer à de Gaulle de faire... Ça ne s'appelle pas encore le Conseil de la Résistance, parce qu'il y a...
Oui, il y a plusieurs noms. Hein, oui,
noms qui ont changé. Enfin, faire un Conseil de la Résistance. Et il attendait que de Gaulle lui réponde. Et de Gaulle ne lui répond pas. Alors, il écrit dans un autre rapport qu'il rajoute, parce que le rapport qu'il a écrit le 14 décembre n'est parti à Londres que le 25 janvier 1943. Et donc, une pile de choses, il fallait déchiffrer, il n'avait pas le personnel dans le BTRA pour déchiffrer, et ainsi de suite. Pardonnez-moi de donner tous ces détails.
Non.
C'est pour vous faire comprendre, pour faire comprendre ce que c'était vraiment la France libre, la résistance, c'est-à-dire des très petits organismes qui avaient beaucoup de difficultés à fonctionner.
Oui, et qui en plus n'étaient pas toujours dans les mêmes, dans la même entente. C'était difficile de faire s'entendre tout le monde.
Et alors, quand Jean Moulin... Alors, Jean Moulin a eu beaucoup de peine à convaincre de Gaulle à être d'accord pour faire un conseil de la résistance. Et vous allez comprendre pourquoi. De Gaulle venait d'Alger, et non, de Rabat, mm-hmm. où il avait vu le général Giraud et Churchill, etc. On lui avait présenté à Giraud, etc. Et puis il était retourné à Londres et Giraud était reparti à Alger. Mmh. Et il n'était pas de question que de Gaulle aille à Alger. Bon. Alors, il y avait quelque chose pour lui. C'est que si on nommait un représentant en France qui ait le contrôle de toute la résistance française, et vous avez compris, mm-hmm.
c'est lui qui devient
vis-à-vis des Anglais, vis-à-vis des Américains, qui représente au moment du débarquement les troupes avec lesquelles, point d'interrogation, peut-être les Anglais et les Américains auront besoin, peut-être, on ne sait pas. Mm-hmm. Mais enfin, en tout cas, c'est un personnage dans la mesure où il a ses titres. Et alors, à ce moment-là, ils ont eu beaucoup de rencontres et de conversations. Parce que Moulin a compris tout de suite. Mais en même temps, il a compris qu'il fallait à tout prix constituer une résistance qui soit toute la résistance, parce que cette résistance devait reconnaître le général de Gaulle. C'est-à-dire que le représentant pour la France de la résistance vis-à-vis des étrangers, ce n'était pas le général Giraud, c'était le général de Gaulle. Et que donc, le jour où le général de Gaulle irait à Alger pour négocier fatalement un jour avec Giraud, eh bien, il y allait en tant que représentant de la France. Et Giraud était un général qui, à cause des Américains, représentait la France. Mais ça n'était pas vrai. C'était lui, de Gaulle, je vous dis les pensées de de Gaulle, qui représentait la France. Et donc, pour représenter la France, eh bien, le seul moyen, c'est ce que proposait de Moulin, parce qu'il réunissait un conseil de la résistance qui n'était pas toute la résistance. D'abord, c'est ça qui gênait de Gaulle. Parce que le conseil de la résistance, eh bien, la résistance, c'était l'armée.
Oui.
Et De Gaulle, lorsqu'il avait envoyé Jean Moulin, lui avait écrit son ordre de mission. Et dans l'ordre de mission, il y avait quelque chose de très, très, très précis. C'est que tous les Français qui se trouvaient dans ce qu'on a appelé plus tard l'armée secrète étaient enlevés au mouvement et étaient placés directement sous le commandement du général de Gaulle à Londres. Et le brouillon que j'ai publié la photo, et que j'ai donné aux archives de ce texte que de Gaulle a écrit pour Moulin au mois de septembre. Il l'a écrit le 5 novembre en réalité.
5 novembre.
Avant le départ de Moulin en France, c'est ça. Mais ça, c'est le premier. Ça, c'est une idée fondamentale. C'est que de Gaulle ne s'était jamais intéressé à nommer des gens. Il y avait un service de renseignement dans la France libre qui apportait des renseignements sur la France, sur ce qu'attendaient les Français, sur les bases sous-marines des Allemands, etc., etc. Enfin, un service de renseignement. Mais de Gaulle n'avait jamais pensé à organiser les Français qui étaient restés en France.
En France, oui, tout à fait.
Ça, c'est quelque chose qui n'est rarement dit ou jamais dit dans les histoires, mais dont il faut vraiment prendre conscience. Et on comprend pourquoi, je vous l'ai dit. Et alors, à ce moment-là, quand Moulin revient à Londres, donc Moulin, je continue sur ce fait que toutes les troupes, parce que ça fait en janvier 1943, quand Moulin arrive en janvier 1942, quand Moulin arrive en France, il arrive avec ses papiers. Et Libération, c'est-à-dire d'Athier de la Vigerie.
L'un des mouvements de résistants.
Ultérieurement, Franc-Tireur, ont donné leur accord presque immédiatement. Mais Freinet n'a donné son accord sur ce point, c'est-à-dire que toutes les troupes qu'il avait rassemblées, il n'en était plus le commandant, c'était Londres et le général de Gaulle qui en était le chef. Et Freinet a mis 2 mois avant de donner cette pièce à Moulin, parce que c'était la condition pour que de Gaulle continue à verser son argent. Et Freinet a été le premier à qui Moulin a versé de l'argent. Il avait donné 200 000 francs. C'est pour vous dire d'où partait réellement en 1942, d'où partait la résistance. 200 000 francs au mouvement le plus important. Et ce n'était pas pour un mois, c'était pour du temps. Alors, ce sont des détails, mais pardonnez-moi de vous donner ces détails, parce que j'essaie de vous faire comprendre quelque chose qui est très difficile.
On arrive bien à démêler quand même les fils de toute cette nébuleuse et complexe affaire. Alors, Jean Moulin arrive à fédérer le Conseil national de la Résistance.
Ah oui. Mais alors, la discussion avec le général de Gaulle.
Ah oui,
Le général de Gaulle, pour répondre, Jean Moulin apporte au général de Gaulle les 8 mouvements de résistance. 7 partis politiques et 2 syndicats, les 2 grands syndicats français. C'est-à-dire, au fond, tous les représentants de la France. Oui, mais la plupart ne sont pas venus. Le général de Gaulle, c'était l'homme qui parachute des armes et qui parachute de l'argent. Oui, mais c'est pas... Et là, on l'a vu au moment de la formation du Conseil de la Résistance, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aucun des chefs de la Résistance de zone sud n'ont été présents pour la première réunion du Conseil de la Résistance, parce que ils étaient à Londres pour demander au général de Gaulle de liquider Jean Moulin, pardonnez-moi le mot, et de leur donner la liberté. Et de toutes les manières, Henri Freinet, et nous avons les papiers, nous avons tout pour le prouver, Henri Freinet ne voulait pas être et n'a jamais assisté au Conseil de la Résistance, en dehors de la première chose, jamais. Parce que il ne reconnaissait pas l'autorité du général de Gaulle sur la Résistance, l'autorité directe. Et c'est vrai que Henri Freinet, qui a été un des premiers résistants et un des organisateurs remarquables, parce que c'était un militaire et il a organisé une armée secrète en zone libre. Mais c'était malheureusement pour cet homme, que j'admire beaucoup, mais c'était un homme qui avait un caractère trop militaire. Et il a essayé de faire en zone occupée la même chose de ce qu'il avait fait en zone libre. Et aucun mouvement de zone occupée n'a accepté qu'ils viennent former une armée secrète en zone occupée. Ouais. Freinet était en zone libre, il faisait ce qu'il voulait. Les hommes de l'armée secrète en zone occupée faisaient ce qu'ils voulaient. Et le grand problème de Moulin, c'est précisément ça. C'est que vous aviez environ 8 mouvements. Il y en avait beaucoup plus que ça. Mais enfin, il avait sorti 8 mouvements. 3 en zone sud et 5 en zone occupée. Et ces 8 mouvements entendaient, et alors évidemment les plus forts, c'est Henri Freinet, entendaient à la libération être les patrons de l'armée secrète, commander l'armée secrète et se trouver au pouvoir quand le général de Gaulle éventuellement arriverait. Mais il y a quelque chose qui n'est pas assez marqué dans les histoires de la Résistance, mais quand on voit et quand on regarde les documents, parce que je vous parle là sur des documents, ce n'est pas du tout une opinion.
Oui, parce que vous avez écrit par la suite.
Non, c'est pas une opinion.
C'est sûr.
J'ai trouvé tous les documents qui sont, que j'ai reversés entièrement aux archives, et donc je suis sûr de moi. Mais il y a cette chose-là. Et d'ailleurs, on voit que lorsque Moulin a disparu, de Gaulle est obligé de céder aux résistants. Il envoie des militaires qui distribuent les armes, qui forment les choses, mais ce n'est plus du tout l'idée primitive de Freinet, c'est que le commandement de la résistance est en France, par des Français, c'est tout. Ça, c'est pas compliqué, mais ça, tous les documents le montrent, le prouvent, et ainsi de suite. Et là, ça a été la grande bagarre des Moulins. C'est pas la grande bagarre.
C'est la grande bagarre.
Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que finalement, il est là où il est maintenant.
Oui, absolument. Alors, un mois après la fondation du Conseil national de la Résistance, Moulin disparaît. Et donc, il y a. Que s'est-il passé? Que savez-vous de ce qui s'est passé à Caluire et l'affaire de Caluire dont vous avez parlé et sur lequel vous avez aussi quelques convictions?
Non, mais là, il y a deux... Je peux vous parler...
Parce que vous êtes à la fois historien et acteur. Ouais, alors, vous avez une vision, non pas d'historien, parce qu'un historien ne peut pas dire des choses.
Vous préférez d'abord la version de l'acteur ou d'abord la version de l'historien?
Je préfère la version de l'acteur.
Alors...
Parce qu'elle revient, elle vient de votre conviction personnelle.
Oui, mais attention. Parce que ce que je vais vous dire, je vous le dis en tant que cordier, c'est-à-dire qu'en tant qu'un homme parmi d'autres de la Résistance.
Parce qu'un historien ne pourrait pas dire la chose. Les papiers ne sont pas encore peut-être obtenus, il faudra attendre du temps. Hein, 2020, 2030, donc vous parlez en tant que cordier, effectivement.
Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le public. Enfin bon, le public n'est pas... Il est très, peut être très passionné, comme vous l'êtes tous ce soir.
Certainement.
Mais finalement, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. C'est que on s'imagine que tout le monde... Il y a des gens qui connaissent parfaitement tout ce qui s'est passé dans la Résistance française, anglaise, enfin, etc., etc. Mais ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Ce qu'il faut bien comprendre, mais qui est rarement dit, parce que ça ruine un peu le travail des historiens actuels.
Eh oui.
C'est ça.
Le fonds de commerce.
C'est que les archives américaines, anglaises, russes, allemandes, française, anglaise, aucune n'est libre, aucune n'a été produite, parce que toutes ces archives-là...
Parce qu'il y a des délais de communication, hein, c'est ça.
La guerre, vous savez, c'est ça. Je pense qu'il faut attendre la mort du dernier résistant, d'abord. Alors peut-être que nous n'en avons plus pour très longtemps. Mais enfin, je n'en ai plus pour très longtemps, pardon. Mais enfin, j'en ai peut-être, j'espère, pour quelques mois.
Bah, quelques années, quelques décennies.
Alors voilà. Mais enfin, bref, imaginons que les derniers résistants disparaissent en 2020, par exemple, 2025. À ce moment-là, on pourra ouvrir toutes les résistances du monde entier. Mais les archivistes ne sont pas très favorables à ouvrir, à ce qu'il y ait des gens qui consultent. Bon, donc, quand je pense que les archives, l'ensemble des archives mondiales, parce que il faut avoir toutes ces archives. Les archives des États-Unis, les archives anglaises, les archives... Et pensez que les
Daniel Cordier, vous pensez que les archives donneront le nom de celui qui a trahi dans l'affaire de Caluire?
Moi, je vous donnerai un nom.
Oui,
mais je
on
ne
attend.
Vous garantis pas que ce
on
soit
attend.
Celui... Je ne vous garantis pas que ce soit celui...
Oui, c'est votre conviction de Daniel Cordier.
Que vous aurez...
Oui, peut-être dans les documents.
L'histoire. Non, mais non, parce que... Je vous dis pourquoi. Pensez que les archives allemandes, les services secrets, chaque exemplaire est tiré à 52 exemplaires. 52. Or, il n'y a actuellement qu'un seul document qui raconte l'arrestation de Jean Moulin, par exemple. Et c'est un document en allemand qui a été pris par préfet à Marseille, enfin, préfet à la Libération. Et lorsque les gens qui suivaient l'armée, qui suivaient les résistants dans partout, pour s'emparer de toutes les archives du monde et les mettre dans les archives, parce que c'est ça, c'est quelque chose qui n'est pas décrit dans les histoires, mais c'est ça la vérité, c'est pas par hasard que toutes les archives du monde se retrouvent dans les archives. Il y a des gens qui sont derrière les troupes quand il y a une guerre et qui ramassent partout où ils peuvent tout ce qu'ils peuvent trouver comme archives. Et le résultat, je vous dis, c'est très simple. Sur les archives allemandes de la Gestapo qui parlent de Jean Moulin, il y en a quand même quelques-unes, bon, eh bien, il en existe une en allemand. Parce que c'est Horak qui, à Marseille, a pris cette archive-là en allemand dans les archives allemandes avant qu'on emporte toutes les archives allemandes, qu'on les range. C'est ça le problème. On n'imagine pas. Parce que sur 52 exemplaires, imaginez que. Bon, mettons, il y a 30 exemplaires qui sont détruits. 30, c'est énorme. Mais non, il en reste 20. Mais imaginez qu'il y en ait 40, 45, mais il en reste encore 7.